Vendredi 8 mars 2019, il est 18h à Niamey, le journal au micro Assoumana Chine. Célébration aujourd'hui 8 mars de la journée internationale de la femme. À cette occasion, les studios Kalangou portent un regard particulier sur la femme rurale nigérienne qui lutte pour son autonomisation. Le Niger dispose désormais d'un outil qui garantit de meilleures conditions à la jeune fille en cours de scolarité. Nous en parlerons en partie magazine de cette édition. Nous ouvrons ce journal par cette information en bref. Le gouverneur de la région de Diffa vient de jeter l'éponge. Mahamadou Bakabé a confirmé à notre correspondant local qu'il a démissionné de ses fonctions de gouverneur de Diffa. Cependant, il n'a pas donné les raisons à notre correspondant qu'il a contacté aujourd'hui au téléphone. Hajia Chima Ibrahim est la première femme au Niger à être élue à la présidence d'une chambre régionale d'agriculture. Âgée de 52 ans et mère de 6 enfants, jamais partie à l'école, Chima de la région de Maradi nous parle de son parcours. Hajia Chima Ibrahim au micro de Mohamed Maman.
Lorsque j'ai déposé ma candidature, les jeunes ne se sont pas posé la question de savoir comment une femme peut-elle diriger. C'est Dieu qui décide. Après 4 ans de gestion, ils ont apprécié positivement. Dès au début, j'ai eu un challenger, mais j'ai remporté les élections et voilà que je suis réélu pour un deuxième mandat. Je pense que maintenant, les hommes ont compris l'importance de confier la gestion aux femmes, car quand la femme gère, il n'y a pas de discrimination, on ne s'accapare pas aussi des biens communs. Ça permet également à tout le monde de comprendre ce que c'est que la chambre d'agriculture. Dans le temps, on nous demandait ce qu'est la chambre d'agriculture, mais maintenant, ils ont compris que c'est un cadre qui regroupe des agriculteurs et des éleveurs.
L'Union Chipale est une association de 12 groupements féminins totalisant 187 femmes qui transforment et commercialisent du lait, des chamelles et des vaches dans le département de Dogondouti, région de Dosso. Cette activité leur procure des revenus leur permettant d'être autonomes et subvenir à certaines dépenses familiales. Madame Alou Halimatou Munkela, membre de cette union et gérante du kiosque de vente du lait au micro de Abdelaziz Dayouma.
C'est une union qui regroupe quelques groupements de femmes vendeuses de lait frais, de vaches, de chamelles et souvent le lait caillé aussi. On a une moto qui fait le tour pour aller prendre le lait dans différents villages ici à côté. Ils collectent le lait de certaines femmes et après ils nous amènent ça ici à Douchi. C'est ce lait qu'on transforme en yaourt. Aller cahier et le lait frais aussi. Ça fait maintenant 6 ans qu'on fait cette activité. Presque tous nos besoins familiaux, on fait ça dedans. La scolarité des enfants, souvent, c'est dedans. Les récréations et autres. Et aussi, parfois, il nous arrive d'acheter des animaux pour emboucher. Bon, on bénéficie dedans, vraiment. Même les hommes, souvent, s'ils ont des problèmes, ils en prêtent de l'argent qu'ils remboursent après.
Cela fait plus de 5 ans que le groupement des femmes de Galakaina, village situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Niamey, font le maraîchage et la pisciculture. Ces femmes sont déterminées à devenir autonomes. Elles utilisent les fonds issus de ces activités pour payer du riz à la récolte, qui sera conservé dans une banque céréalière puis revendu pendant la période de soudure. Reportage Balkissa Hamidou.
Culture de la pomme de terre, de chou, de manioc, de moringa ainsi que la pisciculture sont les activités exercées depuis 5 ans par un groupement de femmes de Galakaina dans le département de Kolo, région de Tillabéri. C'est sur une superficie d'un hectare et demi que ces braves femmes luttent contre la pauvreté. Le chef de village, El Hadj Seyni Yacouba, soutient ces femmes.
Dans l'objectif de débarrasser les femmes des difficultés qu'elles rencontrent et faire en sorte qu'elles trouvent chaque fois un consensus entre elles, voilà pourquoi je les ai. Puis, il n'y a pas plus que de voir des femmes d'un même village travailler ensemble. Aujourd'hui, grâce à leur activité et par un travail bien fait, elles ont bénéficié d'un moulin.
Les femmes du groupement se réjouissent de l'impact positif que ces activités ont eu sur leur vie.
Ce qu'on produit actuellement nous permet de subvenir à nos besoins. Parce que l'argent qu'on gagne, on le met à la banque. Quand arrive la période de récolte du riz, on en achète et on le conserve à la banque céréalière. Pendant la période de soudure, on se partage le riz. Par exemple, si l'une de nous a une cérémonie et n'a pas assez pour l'événement, on lui donne une quantité qu'elle remboursera à la prochaine récolte de riz. Il n'y a pas mieux que de s'entraider.
Malgré les inondations qui détruisent leurs semis pendant la période de crue et le manque de matériel adéquat, l'on peut affirmer que les cultures maraîchères et la pisciculture font le bonheur des femmes de Galkayna.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, notre correspondant de Difa a rencontré une réfugiée nigériane, Hajia Fatih, qui a fui les exactions de Boko Haram, vit dans un camp de réfugiés depuis 4 ans. Hajia Fatih Mahamadou, 40 ans, mère de 4 enfants, qui vit avec sa mère, parle de sa vie de réfugiée à Difa au micro de Lawan Boukar.
Je n'ai plus de nouvelles de mon mari depuis que je suis devenue réfugiée. C'est moi qui prends en charge mes 4 enfants ainsi que ma vieille mère qui ne voit plus. Je suis obligée d'aller en ville faire des petits métiers pour subvenir à nos besoins. Souvent, on gagne de l'argent, mais des fois, rien du tout. On connaît bien cette journée du 8 mars dédiée à la femme. On entend parler auprès des gens parce qu'on ne possède pas de poste radio. Certes, c'est une fête de la femme, mais il faut bien que la femme soit dans de bonnes conditions pour que cette fête ait tout son sens. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que je suis devenue réfugiée et jusque-là, notre situation ne s'est toujours pas améliorée.
Zoom sur la pratique des sports par des personnes en situation d'handicap au Niger et particulièrement les femmes. Notre reporter Alassane Kouzi Mahamadou a rencontré Kadijatou Amadou Salifou, une athlète handicapée qui a représenté le Niger à plusieurs compétitions internationales.
Je fais handbike, vélo de coursier handicapé. Je fais l'haltérophilie dame, lancer du poids, javelot. J'ai fait même fauteuil roulant dame. Malheureusement, à cause du manque de matériel, on a arrêté.
Pourquoi vous vous intéressez à faire du sport?
C'est parce que le sport, c'est la santé. C'est parce que je suis personne en situation d'handicap. Je vais dire que je ne fais pas le sport, non. Moi, à mon avis, personne handicapée, c'est une personne qui ne fait rien, qui est comme ça dans la vie. Je suis handicapée, locomotrice. Je suis fière d'être handicapée parce que mon handicap, ça m'a permis beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de voyages pour le sport. Ma première sortie, c'est Mali. Deuxième, c'est Abidjan, Côte d'Ivoire.
Vous avez eu des prix?
J'ai médaille d'or, j'ai médaille d'argent et de bronze. Mon médaille d'or, j'ai trouvé ça à Abuja 2003.
Dans quel domaine?
Haltérophilie d'âme.
Les femmes journalistes sont systématiquement moins bien rémunérées dans l'industrie des médias, a annoncé JFMD, le Forum mondial pour l'expansion des médias, une association internationale, une organisation liée à la presse, dans un communiqué. C'est à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes célébrée ce jour. Le Forum mondial pour l'expansion des médias estime que les médias doivent embaucher des équipes mixtes et adopter des chartes et codes sur l'égalité des genres pour une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de comportement sexiste et de discrimination fondée sur les genres. L'article 91 de la Constitution du 25 novembre 2010 du Niger stipule que la première session de l'Assemblée nationale s'ouvre dans la première semaine du mois de mars et ne peut excéder 90 jours. Selon un constitutionnaliste, cette disposition a été modifiée en 2018. Dorénavant, cette première session, dite des lois, va s'ouvrir dans la première semaine d'avril. Docteur Amadou Boubacar Hassan, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou, explique.
La première semaine du mois de mars est écoulée que cette session ordinaire n'est pas convoquée. C'est parce que tout simplement, la nouvelle révision donc, de la Constitution fait que la première session doit s'ouvrir la première semaine du mois d'avril et non plus la première semaine du mois de mars comme précédemment.
Donc, point de souci à se faire, docteur?
Non, il n'y a aucun problème à ce niveau. C'est dans l'ordre normal des choses. Peut-être les citoyens ne sont pas informés de cette révision qui consacre dorénavant que les deux sessions s'ouvrent. La première session s'ouvre la première semaine du mois d'avril et la session budgétaire s'ouvre la dernière semaine du mois de septembre et les deux sessions ne peuvent excéder 90 jours.
Beaucoup d'attentes à la fin du Niamey Policy Hackathon au niveau des jeunes entrepreneurs nigériens. Le directeur général du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, Rufai Kouabo, estime que le véritable challenge des entreprises nigériennes est leur capacité à satisfaire les besoins des populations. Écoutons-le au micro d'Olivier Assogbavi.
Les entrepreneurs qui vont bénéficier donc de ces Startup Act, il faut qu'ils puissent aller réclamer les droits que va leur conférer ces Startup Act. Parce que souvent, quand on adopte des lois, ben, on ne les connaît pas. Alors que là, c'est nous-mêmes qui les faisons, c'est nous-mêmes qui faisons en sorte qu'on les adopte. Et donc, on doit faire en sorte qu'elles soient appliquées.
Alors, il y a des objectifs chiffrés à votre niveau, par exemple?
Moi, je suis peut-être pas pour les quotas. Parce que j'estime que le principal challenge, c'est d'amener les startups à être en capacité de répondre à ces marchés. Ce n'est pas tant le fait de leur assurer des quotas. Parce que si on assure des quotas et qu'elles ne répondent pas au cahier des charges, moi j'estime que ça va décrédibiliser le reste des startups.
Une page de sport dans cette édition. La 8e journée de la Super League de football du Niger se poursuit ce week-end. Demain samedi, 2 matchs à Niamey. L'AS Douane face au Racing FC et l'US Gendarmerie affronte l'AS Nigelec. Dimanche à Arlit, Akoukana FC accueille le Sahel SC de Niamey et l'Urana d'Arlit affronte l'AS Police de Niamey. À Niamey, l'AS Sonidep de Niamey joue contre l'Espoir FC de Zender et l'AS Garde Nationale affronte la JST de Tawa.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Place à présent la partie magazine. Le 4 février, les ministères de l'enseignement primaire, des enseignements secondaires et des enseignements professionnels ont conjointement signé un arrêté précisant les conditions de protection, de soutien et d'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité au Niger. Ce document, selon la coordinatrice de l'ONG Femmes, Action et Développement, a seulement un caractère dissuasif. Nafissa Idesadou nous fait découvrir cet arrêté.
Nafissa Idesadou, coordinatrice de l'ONG Femmes Action et Développement FAD, indique que l'arrêté signé le 4 février par les autorités protège, accompagne et soutient la fille pendant sa scolarisation.
Avant même le décret, on avait travaillé sur un projet de loi portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité qui malheureusement n'a pas pu être adopté par l'Assemblée nationale. Donc, vu vraiment la pression et la nécessité d'avoir un document qui doive protéger la jeune fille en cours de scolarité, le président de la République a eu le courage de signer un décret. Donc, c'est suite à cela, on a fait plusieurs plaidoyers pour que l'arrêté d'application soit signé et que ce décret soit effectif. Même si aujourd'hui, si vous regardez le contenu de l'arrêté, le décret est très limité parce que ça ne prévoit pas des sanctions pénales pour les auteurs. Donc, ce n'est pas un document juridique.
Vous parlez de ceux qui enlèvent les filles en cours de scolarisation, les parents, vous parlez de qui?
On parle des parents, on parle aussi des enseignants parce que la jeune fille rencontre plusieurs obstacles au cours de sa scolarité. Donc, entre autres, il y a le mariage précoce qui est là. Il y a aussi les enseignants qui abusent de ces jeunes filles-là. Il y a aussi les jeunes garçons qui les harcèlent en milieu scolaire.
Est-ce que cela expliquerait peut-être la rétention de certains parents de laisser aller les filles à l'école?
Vraiment, oui. Parce que nous, on a fait plusieurs villages et on a rencontré vraiment les parents. Leur cri de cœur, vraiment, aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment un document juridique qui doit sanctionner tous les auteurs. Parce que si tu vois la fille de ton voisin a été enceinte et qu'il n'y a rien eu, ça rend les parents vraiment réticents.
Et quelle est la garantie que les parents d'élèves, tous ces auteurs, vont peut-être respecter ce décret?
C'est le fait que non seulement l'État donne des responsabilités aux parents qui sont les garants vraiment de la promotion de l'éducation de leur fille, il y a aussi le fait que vraiment l'État prenne des mesures au cas où vraiment la fille tombe enceinte en cours de scolarité ou bien soit mariée malgré elle, qu'elle puisse continuer ses études. On peut intimider les populations pour vraiment que les filles soient totalement protégées. Ça ne résout pas tous les problèmes et le fait de brander déjà un document au niveau de la population, surtout rurale, ça donne beaucoup d'avantages. Je pense qu'au-delà du code pénal, on a besoin beaucoup plus du statut personnel qui doivent vraiment prendre des mesures pénales. On continue le plaidoyer pour que cela soit possible.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez Rayleigh Soumana et ses invités dans le forum de la presse.